RFI.
Ouais, ça a toujours été une ferme. Hein.
Grand reportage.
L'agriculture française est à un tournant. L'an prochain, elle devra se passer de glyphosate, un herbicide efficace et peu cher, mais qui a été jugé cancérogène probable par le Centre international de recherche sur le cancer. Comment les agriculteurs se préparent à ce changement radical? L'exemple de la région Centre-Val-de-Loire. Les agriculteurs bientôt privés de glyphosate, entre résistance, progrès et impasse. C'est un grand reportage de Claire Fage.
On est sur l'axe Paris-Château de la Loire.
Christophe Bougrin, la cinquantaine, cultive des céréales et des oignons-graines à Coulmiers, dans le Loiret. Comme son collègue Olivier Paroux, qui nous accompagne, il utilise le glyphosate, notamment pour détruire deux plantes vivaces, le chardon et le chiendent, entre deux cultures.
Là, la terre est couverte d'un blé qui a été semé à l'automne. Après avoir moissonné ce blé-là, on va laisser un peu au repos. Les vivaces, comme elles sont profondes en sol, leurs racines sont profondes, sécheresse ou pas, elles vont prendre de la hauteur. C'est là que vous allez remarquer les ronds de chardon, les ronds de chiendent, etc.
Et donc, vous utilisez le glyphosate à quelle période pour éliminer
août-septembre.
Ces vivaces au mois d'août-septembre.
Voilà. C'est par où t'es sorti, toi. Par où t'es sorti, je sais pas par où elle sort. Non, elle sautera pas. Elle est dressée pour ne pas sauter.
Pour les pommes de terre aussi, vous mettez du glyphosate en interculture ou pas? S'il y a des vivaces, parce que de toute façon, vous
s'il y a des vivaces, c'est la seule alternative que l'on ait. Hein, voilà, c'est la seule alternative. C'est pour ça, 2021, on n'aura plus cette alternative. Bon, tout à l'heure, on parlait de ronds. Les ronds, c'est des zones dans les champs infestées. Bon, le rond, au début, il n'est pas grand. Il fait 10 ou 15 cm de diamètre. Sauf qu'un rond, au bout de 2 ans, il va faire 50, 70 mètres. C'est le début de pas de solution pour nos vivaces. Je pense qu'on est géré par nos hommes politiques qui comprennent qu'en interculture, l'utilisation pour des raisons bien particulières du glyphosate, on donne des dérogations. Et il nous faut des dérogations en interculture. On ne demande pas en culture, de manière on l'utilisait pratiquement pas. En France, c'était pratiquement jamais utilisé. On parlait du blé dur du Canada. Eux, ils font mûrir avec du Roundup. Ben je comprends pas comment Panzani peut acheter du blé dur au Canada.
Et vous pensez vraiment que le gouvernement va reculer? Ça serait un tollé en France.
Ah, pas du tout. Quand c'est justifié, je trouve ça très intelligent de reprendre les bonnes mesures.
Comment est-ce que vous allez négocier ce virage, puisque au 1er janvier 2021, cette molécule va être interdite dans la plupart de ses usages en France?
Comment négocier ce virage? Déjà, ce virage engendre des coûts importants. Il faut s'équiper en matériel, du matériel spécifique pour pouvoir désherber.
C'est-à-dire?
Ce sont des bineuses optiques qui coûtent 60 à 80 kilos euros. 80 000 euros, donc. Ce sont des ercetteries, ce sont des houes rotatives, tout un budget à mettre. Et aujourd'hui, les exploitations ne dégagent plus assez de revenus pour pouvoir partir dans un tel investissement. Voilà.
Pour l'heure, vous n'avez pas ce type d'outils mécaniques?
Non, je n'ai pas d'alternative pour l'instant. Les parcelles sont ce qu'elles sont. Ça sera un peu plus sale et puis on verra, on tiendra le temps qu'on tiendra.
Le problème de calculer le coût aujourd'hui, je suis pratiquement convaincu qu'on va avoir une perte de rendement hectare. Le rendement en betterave, si vous faites 10 tonnes au lieu de, allez, on va dire 80, vous avez une perte de 70 tonnes. Ils ont évalué pour la betterave, uniquement pour le désherbage en bio, le coût hectare est de 1500 euros de plus de charge à l'hectare. Parce qu'on passe avec des robots bineurs, on fait 2000 euros de chiffre d'affaires. Si vous avez déjà 1500 uniquement pour le désherbage, c'est la fin programmée de notre agriculture si on n'a pas de solution alternative. Il faut des solutions alternatives. Sinon, les gens passeront au milieu des routes avec des friches à droite et à gauche.
L'abandon du glyphosate coûtera, selon l'association des producteurs de blé, 960 millions d'euros au secteur des grandes cultures. D'autres productions à marge plus importantes, semencières ou maraîchères, ont davantage les moyens de cette transition. Philippe Noyau, président de la Chambre d'agriculture du Centre Val-de-Loire, fait des tentatives de désherbage mécanique autour de ces asperges à Nouret, dans le Loir-et-Cher.
Avant la future récolte, il faut qu'il y ait beaucoup moins d'herbe que ça. Sinon, au mois de juin, l'herbe sera haute comme ça, et les asperges, elles ne seront pas vertes, elles seront blanches, parce qu'elles seront dans l'herbe. Et les cueilleurs ne pourront pas récolter les asperges. Alors l'an dernier, avant, on pulvérisait un peu de glyphosate pour avoir un sol propre avant récolte. Donc vers le 15 mars, donc ça c'est dans un mois, vers le 15 mars, un glyphosate pour détruire cette herbe, pour pas qu'elle gêne la pousse de l'asperge.
Donc c'est avant que l'asperge ne voilà. sorte
et
du
donc,
sol.
Et donc maintenant, on espère que la météo sera gentille. Là pour l'instant, le sol il est frais, il a plu. Donc si on passe à un matériel, ça va faire des boulettes. Le sol ne sera pas léger pour qu'on puisse récolter l'asperge. Ça va compacter le sol. Et le sol, il faut qu'il soit aéré pour que les vers de terre vivent, pour qu'il y ait de l'eau et de l'air en même temps. Parce que s'il n'y a pas d'air dans le sol, il est asphyxié, on appelle. Et donc, ça va asphyxier nos asperges qui ne pourront pas pousser après. Vous voyez l'enjeu. Donc, on espère qu'il y en aura une période assez saine au mois d'avril, début avril, pour pouvoir gratter le champ au-dessus
de ces griffes.
De cette partie-là, d'accord. Donc on va travailler cette partie-là.
Ouais, et l'objectif, c'est d'enlever
L'herbe. Voilà, on va passer plusieurs fois, plusieurs
et
outils.
Vous passez quoi?
Alors un outil qui va couper avec des disques, qui va découper. Après, on attend un petit peu. Après, on a une buteuse, donc on va rebuter, parce que là, la butte avait été étalée. Donc on va rebuter. Et après, on va passer une griffe qui s'appelle une herse étrille. Enfin, c'est une herse, hein, qui va gratter et qui va de nouveau enlever les nouvelles petites pousses d'herbe. Et l'an dernier, arrivé au 15 juin, j'avais de l'herbe comme ça, mais on est arrivé en fait à récolter quand même des asperges jusqu'au bout. La problématique arrivera au 15 juin, puisque le sol sera de nouveau sale. Et là, c'est beaucoup plus compliqué, surtout s'il a plu avant. Parce que dès la fin de récolte, dès le dernier jour, parce qu'il y a plein d'asperges qui seront en train de pousser, donc dès le dernier jour, il faut que le sol soit propre. Donc là, la seule solution qu'on a pour l'instant, c'est effectivement d'épandre une petite dose de glyphosate pour griller cette herbe, pour que l'asperge puisse pousser avant que l'herbe repousse. Et après, on va réussir à avoir un sol propre jusqu'au 14 juillet, mais de nouveau, l'herbe va repousser. Donc là, avant, on faisait du glyphosate. Maintenant, on cherche à tondre. Donc on a acheté un gros tracteur tondeur et on va tondre l'herbe qui va pousser. Et après, on a loué chez un vigneron un petit tracteur avec des disques pour de nouveau jeter de la terre sur le rang pour étouffer l'herbe qui était sur le rang et pour nettoyer la partie qui est au milieu. Donc ça, c'est les solutions qu'on a trouvées, mais vous voyez bien qu'on n'est pas arrivé au bout parce que pour l'instant, on n'a pas de solution.
Alors depuis 2 ans que vous tentez ces expériences, vous avez diminué la consommation de glyphosate de combien?
On est divisé par 2.
Ou même plus.
Quand on passe à la fin de récolte, on met 2 litres.
Ouais, on met 2 litres.
2 litres, donc on était autour de 6, on est passé à 2, quoi, en gros.
Oui, voilà. Donc vous voyez,
par contre, on était à 3 litres de gazole, on est passé à 15. Hein. mais il faut toujours faire le parallèle quand même.
À l'autre bout du département, au sud de la Loire, Franck Béchler pratique l'agriculture de conservation sur 70 hectares à Crouy, en Cosson, en pleine Sologne. Pas de labour, la terre est toujours couverte, jamais labourée pour stocker du carbone et régénérer le sol. Il doit encore utiliser du glyphosate.
Regardez ce que vous avez là-haut. Regardez les serres.
Oh, magnifique.
Ça, c'est assez exceptionnel. Mais en fait, depuis quelques années, ils restent dans le coin parce qu'il y a tout le temps à manger nous, chez nous. Il y a tout le temps de la biomasse dans les champs. Donc, ils s'habituent. Ils s'habituent et ça nous fait de la biodiversité, mais parfois on aimerait en avoir un petit peu moins, quoi, parce que ça fait quand même pas mal de dégâts, ça nous mange aussi des céréales, mais à cette époque-ci, c'est pas gênant et on trouve ça plutôt joli. Mais voilà, ça vous verrez pas ça partout, quoi. Vous avez les brebis à droite, les aigrettes qui sont en train de manger, les mulots, les vers et tout ça, et là, vous avez les cervidés. Bienvenue en soleil. Là, cette parcelle-là, on a fait qu'un seul glyphosate cet automne. Cette parcelle-là, vous voyez que sinon elle est propre. Vous n'avez pas d'autres mauvaises herbes. Mmh. Mais ça, c'est lié aussi à l'assolement et à la rotation qu'on a pu mettre en place sur cette parcelle-là. Et si on a pu mettre en place cette rotation, c'est parce qu'on a été capable de remettre en route un sol grâce à la production de biomasse, en donnant à manger à nos vers de terre. Et donc, pour sécuriser encore une fois cette production de biomasse, c'est cette petite clé à molette que l'on a avec nous, ce 1,5 litre de glyphosate qu'on met pour sécuriser et pour produire de la biomasse, qui commence à enclencher le système et qui fait que on gagne, quoi. Ça, c'est du seigle.
Là, vous avez de la facélie. Là, vous avez des pois.
Ici. La facélie, c'est quoi?
C'est une plante, une hydrophyllacée, très, très mellifère. Donc, quand la période va arriver où elles vont entrer en fleurs, ça va bourdonner de partout. Je vais aller vous chercher une motte de terre juste à côté. Je vais vous la mettre à côté de celle-ci. Vous allez voir la différence. Ça, c'est un gros ver de terre. C'est un anésique qui, lui, va forer de haut en bas. Et lui, il va me brasser, en fait, la matière organique. Mais si je ne lui donne pas à manger, là, en surface, ben, il ne peut pas vivre.
Et lui donner à manger, c'est donc...
C'est produire la biomasse,
ouais,
c'est produire là, des couverts végétaux.
On marche là dans,
là, c'est dans
des herbes un peu sèches, comment vous appelez ça?
Des métailles.
Voilà.
Des métailles. Et donc là, on arrive sur la différence. Donc là, ici, ça n'a pas été désherbé. Ben voilà, il n'y a rien. Tout ce que vous voyez là, ce sont des adventices qui m'ont étouffé complètement ce que j'ai semé.
Alors que de l'autre côté, on a du seigle.
Là, j'ai mis un coup de glyphosate juste avant de mettre en place mon seigle. Alors que là, ben, je ne l'ai pas fait pour essayer, pour tenter. Hein.
Et, ben, et vous avez semé quand même ici?
Ah ben oui, j'ai semé.
Ben, voyez, seigle, on devine, pareil.
Vous voyez, on l'en devine un peu là.
Ah oui.
Mais il est complètement étouffé. Ça me permet aussi de voir que les plantes que l'on voit là, tout ça, ce sont des graminées. C'est de la vulpie. C'est des indicateurs de sol très dégradé, de sol qui se lessive. Donc, mais bon, ça je le savais. Mais bon, mon sol vient de me le redire encore, parce que j'ai laissé faire. Mais par contre, là, je ne vais pas produire de biomasse. Alors, c'est nul en production de biomasse, donc c'est nul pour donner à manger à mes animaux. Tout ça parce que, ben voilà, j'ai voulu tenter le diable, quoi.
Sans glyphosate.
Sans glypho.
Cet automne, vous avez appliqué du glyphosate avant de semer votre orge.
Oui.
Vous l'avez appliqué comment et à quels endroits
ah ben, en fait, on met du produit dans une cuve et on épanse ça avec un tracteur. C'est des mini-ordinateurs hein, qui sont sur les tracteurs qui nous permettent de contrôler au plus juste les quantités de produits et la dose hectare que l'on met. Donc là, nous, on traite à 60 litres hectare. Donc on met 1,5 litre ou 1 litre de glyphosate dans 60 litres d'eau, voilà, pour simplifier. On applique ça, donc cette quantité-là, à l'hectare. C'est tout.
Et le glyphosate, pour les agriculteurs, vous ne pensez pas que c'est un produit dangereux
non.
pour vous?
Non. Après, comme toute chose, il faut faire attention. C'est pour ça aussi que si aujourd'hui j'avais fait des traitements, vous ne seriez pas rentré dans la parcelle, parce qu'on a des devoirs, des respects en termes sanitaires, c'est-à-dire qu'on a des délais de réentrée dans les parcelles, il faut faire attention à tout ça, il y a des choses à respecter. Là, il fait du vent, donc il est hors de question de sortir un pulvérisateur dans les champs, parce que sinon, ben, le produit, ben, il ne va pas sur votre parcelle, il va je ne sais pas où, donc il est hors de question de traiter dans ces périodes-là.
Et vous êtes dans une cabine qui est suffisamment étanche?
On met un masque.
C'est un masque, il y a une combinaison aussi?
Une combinaison, un masque, et puis donc c'est des filtres à charbon que l'on met. Mais il y a aussi les conditions climatiques dans lesquelles on va l'appliquer qui va faire que, comme je vous disais, si vous faites ça dans de très bonnes conditions, sans vent, avec une bonne hygrométrie, donc une humidité dans l'air satisfaisante, proche de la saturation, normalement, il faut
C'est-à-dire
être...
C'est-à-dire que ça rabat le
En fait, le produit ne s'évapore pas, il est pris dans les gouttelettes et il s'applique au sol. Donc il n'y a pas de déperdition, on ne fait pas de pollution. On ne pollue pas les fossés ou les choses comme ça.
Alors, en 2021, normalement, tous les usages du glyphosate ne seront pas interdits. Est-ce que vous savez, ce qui va vous être réservé?
Non, mais apparemment, je crois que c'est le ministre de l'Agriculture qui a dit qu'il était inenvisageable de travailler en agriculture de conservation sans l'appui du glyphosate. Donc, on a bon espoir. Maintenant, on est prêt aussi à jouer le jeu en disant ben, vous nous contingentez un volume... Par exemple, sur la ferme, nous disant qu'il ne faut pas utiliser plus de, je sais pas moi, 1,5 litre de glyphosate à l'hectare. Et puis on va se débrouiller avec, et on sera capable de se débrouiller avec. Là, on va peut-être avoir des dérogations, donc on verra en 2023. Si les gens se rendent compte, enfin en tout cas si les personnes censées se rendent compte des possibilités en termes de production, la formidable capacité que l'on va avoir à pouvoir stocker du carbone, parce que ça, il faut en parler aussi, le réchauffement de la planète, toutes ces choses-là, qui va s'en occuper, qui est capable de le faire aujourd'hui? Le monde agricole est capable de le faire. Mais il faut nous donner aussi un petit peu d'outils.
cherche. Oui, Valentin, c'est Jérôme.
À l'Institut technique Arvalis de Boigneville, au sud de la région parisienne, Jérôme Labruche, ingénieur, mène avec Valentin Naudet des essais de désherbage superficiel avec un déchaumeur à dents, alternative au glyphosate.
Ok. Ce qu'on essaye de faire en agriculture de conservation, mais sans glyphosate, avec tous les aléas de cette nouvelle technique, c'est de couper les racines des plantes pour la dévitaliser. Et en fait, malheureusement, il nous faut des conditions sèches. Alors on les a plutôt du mois d'avril au mois de septembre. C'est en gros printemps-été, quoi, pour faire un peu simple. L'eau s'évapore beaucoup et donc le sol devient sec. Avant des cultures d'automne, comme un colza ou un blé, on peut globalement réussir à avoir des opportunités de travail en conditions satisfaisantes en août ou septembre. Après, ça commence à devenir délicat en octobre. Et le plus délicat, c'est l'hiver et ce qui va précéder les cultures de printemps, comme de l'orge au printemps, du maïs, du soja, où on va quand même avoir un peu de mal à trouver des conditions satisfaisantes.
Bonjour.
Bonjour.
Valentin Naudet, je suis donc le technicien avec Jérôme. Sur la partie des travaux du sol et justement les 16 0
Donc on monte dans votre voiture?
Bon bah oui, oui. On va aller voir là, par là. On a les bottes et. Enfin moi j'ai des bottes. Bon c'est un peu grand. Mais...
Ah voilà. En face de nous, on a une parcelle où on a eu un couvert végétal qui a été détruit mécaniquement de manière anticipée par rapport à ce que la réglementation aujourd'hui nous autorise. Donc on l'a détruit fin septembre. Voilà. Et le but, c'était donc de détruire, en faisant plusieurs passages, de détruire le couvert végétal, mais surtout les adventices qui étaient dedans, avant l'hiver, avant que le sol ne devienne vraiment humide. Voilà. Alors c'est pas parfaitement propre, parce qu'on est un mois d'octobre très humide, mais malgré tout, c'est quand même une des parcelles les plus propres de l'essai. Et sur la gauche, on a une conduite plus classique, donc il n'y a pas eu de glyphosate. On a fait une destruction plus tardive au mois de novembre, avec des conditions très humides. Et là, pour le coup, c'est vraiment très sale. Et très franchement, je pense que cette parcelle, ça va être un carnage pour la culture qui suit. Ça va être très très compliqué. Parce qu'en fait, dans une parcelle qui est assez sale comme celle-ci, se passer de glyphosate sans labour, c'est quasiment impossible si on n'a pas vraiment une adaptation. Et on voit tout au fond, là, une parcelle marron. Ben, en fait, c'est un labour qui a été fait de manière assez classique au mois de novembre ou décembre. Et donc, en fait, c'est une pratique agricole assez répandue, quand le sol le permet.
C'est vrai que toutes les terres en France ne sont pas forcément labourables. Il y a des agriculteurs qui ne vont pas pouvoir aller descendre au-delà de 10 cm. Ils vont tomber tout de suite sur des roches ou des pierres et... C'est des terres ou de la terre blanche qui va être en surface et après c'est très mauvais pour la culture qui suit. Donc toutes les terres, elles ne sont pas labourables en France.
Donc ici, pour résumer, vous avez fait un travail du sol
fin septembre. Et on en a fait plusieurs pendant l'hiver, en fait. Et il y a un mois, en janvier, sur le gel. En fait, c'est quand on parle des gaz à effet de serre, on a une illustration d'une parcelle où il y a déjà eu...
Six passages.
Donc en fait, en termes de consommation de carburant, c'est important. Et vous voyez que l'écart par rapport à des pratiques où on va réduire le travail du sol, en termes d'émissions de gaz à effet de serre, on n'est pas des militants du glyphosate, mais sans passer, ça va poser d'autres problèmes.
Je vais aller chercher une bêche.
Comment seront définis les usages agricoles qui bénéficieront de dérogations? Comment seront contrôlées les quantités de glyphosate vendues en France, alors qu'aujourd'hui, sur 8000 tonnes, près de la moitié ne sont pas déclarées par leurs utilisateurs? Autant d'inconnus encore à quelques mois du changement de réglementation.
Les agriculteurs bientôt privés de glyphosate, entre résistance, progrès et impasse. Un grand reportage de Claire Fage, réalisation Pierre Chaffangeon.